On va ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien, dans le livre de l'Apocalypse. N'ayez pas peur, l'Apocalypse, ça fait pas mal forcément. Apocalypse chapitre 2, et nous lisons au verset premier. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Les chandeliers donc d'or sont les églises, et les sept étoiles donc ce sont les serviteurs de Dieu. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es pas lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. On va prier le Seigneur, on va demander à Dieu de bénir cette parole. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est esprit et vie. Te prions afin que ce soir, tu puisses nous parler encore, que tu puisses nous faire du bien. Seigneur, tu vois les amis qui sont là, qui ne te connaissent pas. Te prions que tu puisses te révéler à leur cœur comme le Dieu vivant et vrai, le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant. Nous te disons à toi la gloire, la louange et l'honneur, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand on parle de l'Apocalypse, tout de suite, ça peut nous faire peur, ça peut avoir des accents un petit peu apocalyptiques, mais Apocalypse signifie tout simplement révélation. Révélation, et le livre de l'Apocalypse dit ceci, révélation de Jésus-Christ, qui nous montre ce qui se passera dans les temps de la fin. Et dans ce livre particulier, il y a quelques paroles qui sont adressées en particulier aux églises qui étaient en Asie mineure à l'époque. Et ici, nous avons lu donc une parole qui s'adresse à l'église d'Éphèse notamment. Et je note une chose ici, c'est que cette église avait bien commencé, c'est l'apôtre Paul qui l'a construite, qui l'a fondée avec des miracles, des prodiges, avec le Saint-Esprit qui est venu sur elle, il sépara les disciples d'avec les contestataires, etc. Et on a vu des miracles se faire, on retrouve tout cela dans les actes des apôtres. Bien. Et ici, quelques années plus tard, au moins deux décennies plus tard, Dieu va pointer quelque chose. Il va dire, Église, c'est bien, parce qu'en passant, l'Église, c'est nous, c'est vous et moi. C'est bien, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, tout ce que tu fais, mais j'ai quelque chose contre toi. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et ce qui ne va pas, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Ou plus exactement, ce qui ne se passe plus dans ton cœur. Il y a un manque d'amour. Le Seigneur dit clairement dans Apocalypse 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et c'est tellement important pour le Seigneur que il va dire « Si tu ne te repens pas, souviens-toi donc d'où tu es tombé, si tu ne te repens pas de cela, de ce problème de cœur, de ce problème intérieur en toi, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » C'est-à-dire que je prendrai la bénédiction qui est sur ta vie et je la communiquerai à quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est un peu l'histoire de Saül et David. La parole de Dieu nous dit que Saül était un roi qui avait été finalement choisi par le Seigneur. Il a même reçu une certaine onction. Mais à cause de sa désobéissance, l'Écriture dit que l'esprit qui était sur Saül s'est retiré de Saül. Et dans le même temps, alors que les esprit s'est retiré, la Bible dit qu'un mauvais esprit venait sur Saül et l'agitait. Il était angoissé, il était devenu paranoïaque, il avait des idées noires, il était toujours avec une lance à la main. Et la Bible dit que dans le même temps, Dieu a choisi un jeune roi du nom de David, qui était un adorateur, qui aimait l'Éternel. Et David est le premier homme de Dieu dans l'Ancien Testament qui dira à Dieu lui-même, « Je t'aime, ô Éternel. » Est-ce que vous aimez Dieu ? Parce que sans le Saint-Esprit, il est impossible d'aimer Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et cette église avait donc un problème de cœur. Vous savez, la vie, ou plus exactement ce que nous prêchons cet après-midi, nous prêchons l'amour de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de quoi ? D'un Dieu qui est en colère du haut du ciel et qui veut nous juger. Non, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle d'un Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. C'est pas une bonne nouvelle de savoir qu'on est aimé dans le ciel. Pas d'un amour passager. Vous savez, les hommes se lassent vite, hein. Surtout en termes d'amour. Aujourd'hui, on s'aime, on se marie devant le maire, alléluia. Enfin, je sais pas si on dit alléluia. On fait des vœux, je t'aimerai pour le meilleur et pour le pire. Oui, mais quand le pire arrive, parfois, bye bye, hein. Ce sont des promesses avec la bouche, mais le cœur parfois peut se refroidir avec le temps et les difficultés de la vie. Mais la Bible dit que du côté de Dieu, nous sommes aimés de façon éternelle et inconditionnelle. Dieu t'aime. Tu vas dire, mais pasteur, je suis pas digne de l'amour de Dieu. Si tu savais tous les péchés qu'il y a dans ma vie, eh bien là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Dieu t'aime encore, Dieu t'aimera toujours, jusqu'à la fin, malgré nos péchés. Le Seigneur sait ce que nous sommes et pourtant, ça ne l'empêche pas de nous aimer, au contraire. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Mais avec Dieu, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu dit à cette église, ce que Dieu dit à chacun de nous, je t'aime, mais toi, est-ce que tu m'aimes ? Parce que vous êtes d'accord avec moi, pour qu'il y ait une vraie relation d'amour, il faut qu'il y ait de la réciprocité. Parce que si j'aime quelqu'un, mais qu'il n'y a pas le retour, à un moment donné, la relation va se désagréger. C'est pas très beau comme mot, mais ça fonctionnera pas. Il faut que l'amour soit dans les deux côtés. Et je crois que ce qui manque parfois, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. On parlait ce matin, on a été un petit peu dans le jardin d'Éden, et parce qu'on a parlé sur l'importance de ne pas se cacher devant le Seigneur, mais de se livrer, d'être tel que nous sommes devant le Seigneur. Mais vous voyez, quand à un moment donné, finalement, dans ce jardin, alors qu'ils étaient heureux dans ce jardin, la Bible dit qu'ils ont commencé à se cacher de Dieu. Leur amour pour le Seigneur en a pris un coup. Et c'est ce que le péché a fait. Le péché a mis un coup à notre relation d'amour avec Dieu. Et c'est beau quand on peut dire, quand on peut s'entendre dire, et c'est ce que l'apôtre Pierre disait dans sa première épître au chapitre 1er au verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Des fois, on dit, certains ont vu Jésus. Il y en a d'autres ne l'ont jamais vu physiquement. Mais on le voit avec les yeux de notre cœur. Mais vous l'aimez, dit Pierre, sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut pour de vos âmes pour prix de votre foi. Ce que Dieu désire avec nous, c'est une relation d'amour et de foi. Nous ne le voyons pas, mais nous l'aimons même si nous ne le voyons pas. Parce que nous lui obéissons. Parce que il y a des gens qui disent « j'aime Dieu », mais ils font n'importe quoi. Quand on aime Dieu, on obéit à sa parole. On est comme les récabites de l'Ancien Testament qui observaient des lois pourtant de leurs parents. Et Dieu dira « mais regardez-les, eux, ils sont fidèles, ils boivent pas de vin, ils se dressent, ils vivent sous des tentes parce que quelqu'un leur a dit de faire comme ça. Et vous, peuple de Dieu, alors vous avez la révélation. Vous vivez à côté de vos pompes, dans la désobéissance. L'amour de Dieu, c'est vivre selon ce que Dieu dit. L'amour de Dieu se vérifie lorsque on est capable, rendu capable d'aimer son prochain. Parce que Dieu dit, arrête de me dire que tu m'aimes alors que tu ne me vois pas et que tu n'es pas capable d'aimer ton frère, ton prochain que tu vois. J'avance. Nous avons lu au verset 7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous allions au paradis. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois du voyage. Vas-y, dis-lui. Pas en Israël, hein, mais dans le paradis. Oui, parce que le Seigneur a payé pour que nous allions au paradis. Et à partir du moment où, comme ce brigand sur la croix, nous réalisons que Jésus, c'est le sauveur du monde, que Jésus, c'est le cadeau de Dieu à l'humanité et que, tout simplement, dans un acte de foi, nous disons, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus l'a dit, en vérité, je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Donc, le paradis existe. On l'a perdu à cause du péché. Mais il peut être retrouvé grâce à l'œuvre de Jésus à la croix du calvaire. Vous savez ce que Jésus a fait en mourant à la croix lorsqu'il a rendu son dernier soupir? La Bible dit que là, dans le temple de Jérusalem, il y a eu un miracle en simultané. Jésus a poussé un cri et pendant qu'il s'était crié, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », au même moment dans le temple de Jérusalem, la Bible dit que le voile qui était entre le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré du haut en bas parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a validé le sacrifice expiatoire, l'œuvre rédemptrice de Jésus, et par l'œuvre rédemptrice de Jésus, je peux être sauvé pour ce temps et pour l'éternité. Amen. Iras-tu au paradis? Quelqu'un a dit, ou plutôt quelqu'un a chanté, on ira tous au paradis, on ira. On y... C'est ça ou quoi? J'en sais rien. C'est les réminiscences de mon ancienne nature. Ne me lapidez pas d'avoir commis un sacrilège du haut de la chair sainte de Saint-Étienne du Rouvray, jaune cet après-midi. Mais ça, c'est un mensonge. Ça, c'est une chanson populaire, mais c'est pas la vérité. Parce que je lis dans la même Bible, dans une autre lettre à l'église de Smyrne, Apocalypse 2, verset 11, s'il vous plaît, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voyez, celui qui vaincra, dit le Seigneur à l'église d'Éphèse, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et il est dit ici au verset 11 à l'église de Smyrne, celui qui vaincra finalement, n'aura pas à souffrir la seconde mort. La première mort, c'est celle que nous connaissons tous. Vous savez, qui est la conséquence de nos inconséquences. Dieu avait dit à nos premiers parents, le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, tu mourras. C'est la mort physique. C'est la mort spirituelle. Le péché, la désobéissance à Dieu nous a fait mourir. D'abord, vous savez, c'est un peu comme une petite plante, une rose que l'on coupe. Elle paraît encore pendant un temps. Mais dans 4 matins, elle va sécher, les pétales vont tomber, on va la mettre à la poubelle. L'humain, c'est pareil. Oui, on vieillit tous. Les pétales tombent. Et pas que les pétales, les pectoraux, il y a tout qui tombe. On peut faire ce qu'on veut, les amis, de la salle de sport, hein. Je l'ai vu, moi, Schwarzenegger et Stallone, ils sont quand même pas aussi frais que ce qu'ils étaient à l'époque, même s'ils font des efforts. Parce que la réalité, c'est que nous devons, c'est que nous mourrons tous. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort physique. Et la mort spirituelle. Et puis cette seconde mort, c'est l'enfer. Alors je ne veux pas vous faire peur, parce que ce n'est pas le but, mais l'enfer est une réalité. Et si ça peut faire réfléchir quelques-uns d'en parler un petit peu, alors parlons-en. Parce que si je ne suis pas réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, si je vis loin de Dieu, si je n'ai pas avec Jésus une relation d'amour et de foi réelle, alors c'est pas forcément systématique et sûr que j'aille au paradis. Vous avez remarqué qu'il y a celui qui vaincra. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et la Bible parle du combat de la foi. Parce que lorsque nous voulons nous positionner pour Dieu dans la foi, il y a un combat, il y a des paroles, il y a des mensonges de l'ennemi pour essayer de nous faire croire que Dieu n'existe pas, que Dieu ne nous aime pas, que tout ça ce sont des sornettes, que ça n'existe pas vraiment. Mais non, si Dieu est bon, on sera tous sauvés. C'est faux. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. La mort spirituelle, c'est finalement la première mort ou la mort physique, un des deux. Mais la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu est précisément la seconde mort. Et tous ceux dont le nom n'aura pas été inscrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu pour l'éternité, avec pour compagnie le diable et les démons. Et l'enfer au commencement n'a pas été fait pour l'homme, mais pour Satan le rebelle. Et Jésus en a parlé de la seconde mort, de ce lieu de souffrance. Vous savez, dans l'Apocalypse ici, le Seigneur dit à cette église, « Je connais ton affliction, ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Mais la Bible parle de souffrance et souffrance. Certains d'entre nous, parfois, ont dit que la vie est un enfer. Oh, que non! La vie n'est rien comparée, même si vous souffrez beaucoup, la vie n'est rien comparée aux souffrances éternelles. Ne crains pas les souffrances d'en bas, crains les souffrances à venir si tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Et Jésus a ôté le voile, il a parlé du mauvais riche et de Lazare. Et Lazare, qui a connu les souffrances pendant sa vie, est allé dans le paradis, dans le ciel, dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et dans le séjour des morts, Luc 16, verset 24, la Bible nous dit qu'il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » C'est la seconde mort. Je souffre cruellement dans cette flamme. Et le drame de cette souffrance, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'être soulagé. Vous savez, aujourd'hui, nous allons prier tout à l'heure. Il y a souffrance et souffrance. Jésus a porté nos souffrances. La Bible dit pour nous, croyants ou incroyants, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Parce qu'il y a dans la prière de la fervente du juste une grande efficacité. On peut connaître le soulagement. C'est thérapeutique la prière, c'est thérapeutique l'Église. Ça nous soigne, ça guérit les plaies du cœur. Mais il y a une seconde mort, où là, il n'y aura plus de possibilité de connaître le soulagement. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est maintenant qu'il faut faire la paix avec l'Éternel. Vous allez dire comment, et j'arrive à la fin du message. Toujours au chapitre 2 de l'Apocalypse, il est dit... À une autre église, à l'église de Pergame et de Thyatire, deux autres églises, au verset 16, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Ou encore au verset 21, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. » La clé pour pouvoir entrer dans le royaume, c'est la repentance. C'est pour ça que Jésus disait « Changez de vie, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. » La repentance, c'est finalement prendre conscience qu'il y a dans mon cœur, dans ma vie, quelque chose qui a besoin de changer. Et Dieu dit « Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. » Et elle ne veut pas se repentir. Le Seigneur ne nous forcera jamais à changer de vie. Le Seigneur nous aime et l'amour fait en sorte que l'autre soit toujours libre de ses choix. Mais la repentance n'est pas un message négatif. La repentance, c'est simplement pouvoir dire à Dieu, « Seigneur, je veux changer, aide-moi à changer. » Je réalise que je suis un pécheur, je réalise que j'ai mal fait, je réalise qu'il y a dans ma vie des choses qui ne vont pas, Seigneur. Change-moi, aide-moi à changer. Le Seigneur nous changera par la puissance de sa parole, par la puissance de son esprit. Pourquoi le Seigneur attend-il de revenir ? Parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. L'apôtre Pierre dit que la patience de Dieu, c'est notre salut. Et il est patient, tellement patient qu'il attend que chacun puisse parvenir à la repentance. Un petit peu comme du temps de Noé. Dieu a été patient, mais un jour la porte a été fermée. Pour pouvoir être sauvé, il faut réaliser qu'on est perdu. Jésus n'est pas venu pour des justes, il est venu pour des pécheurs. Et la repentance, c'est beau. C'est beau quand un homme, une femme rentre en lui-même, fait le point, réalise que dans sa vie, si ça ne va pas, ce n'est pas la faute de Pierre, Paul et Jacques. Si dans sa vie, ça ne va pas, si le ciel est des reins, si tout ce que je fais, ça ne marche pas, ce n'est pas la faute à mes parents. Non, Il faut arrêter d'accuser Pierre, Paul et Jacques. À un moment donné, on est responsable de notre vie et de nos actes. À un moment donné, il faut que je fasse le point et que je me dise que si ça ne va pas, si j'en suis là, c'est parce que j'y suis peut-être pour quelque chose. J'ai peut-être manqué le train, j'ai manqué le coche. Et la repentance, ce n'est pas seulement des bonnes idées sur Dieu. Ce n'est pas seulement même des bonnes résolutions. Le fils prodigue, à un moment donné, dira, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il se leva et il alla vers son père. C'est ce qui a fait la différence, la prise de décision. C'est ça qui change la vie. Ce n'est pas les bonnes intentions. L'enfer sera pavé, disait quelqu'un, de bonnes intentions. C'est ce que tu vis qui compte. Est-ce que tu vis dans la sainteté? Est-ce que tu vis près du cœur de Dieu? Est-ce que tu n'es pas simplement un chrétien de nom? Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Ce n'est pas pareil. Lorsque les premiers croyants ont entendu la prédication de Pierre, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ils vont dire, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre dira, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Le message de la repentance est très important. Il peut faire peur quand il est mal prêché. Mais il peut être salutaire et hyper attirant parce qu'il est libérateur. Pas besoin de venir ici et de confesser tout ce que tu as fait dans la semaine devant tout le monde, mais de le dire à Dieu. Et le Père, vous savez, c'est la fête des Pères aujourd'hui, si on veut mettre le Père en fête. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est de voir des hommes se repentir de leurs péchés. Je dirais, pardonnez-moi, hein, mais ça fera peut-être plus plaisir dans cette journée s'il y a quelqu'un, une personne, cet après-midi qui dit au Père, je te demande pardon pour tous mes péchés passés, présents et futurs. Je m'humilie devant toi, je reviens à toi, je te donne ma vie, Seigneur, que peut-être tout notre culte de ce matin à nous, enfants de Dieu. Ce qui met les anges et le ciel en fête, c'est quand il y a un pécheur qui se repent. Amen. On peut se mettre debout dans la présence de Dieu. Je vais inviter le pianiste. Alléluia, Jésus. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ces bien-aimés qui sont là ce soir. Je te prie de sauver. Je te prie de guérir, je te prie de transformer, je te prie de libérer Jésus. Que ta grâce se pose ce soir sur ton Église, sur les bien-aimés qui la rejoignent dans cette réunion où nous annonçons la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Dieu veut une relation d'amour avec toi. Dieu veut te dire que le ciel et l'enfer existent. Et tu peux revenir vers ton Père. Il ne te jugera pas, il ne te condamnera pas, mais il t'accueille tel que tu es. Et alors que nous allons chanter, je vais vous inviter simplement, on ne va pas faire d'appel sur le devant, mais là où vous êtes simplement, je vais vous inviter à lever votre main, je vais prier pour votre salut, je vais prier pour votre guérison. Vous avez peut-être des problèmes physiques, des problèmes personnels. Là, votre place, simplement là où vous êtes, je vais vous inviter à lever la main. On ne fait pas d'appel sur le devant exceptionnellement. Levez bien haut votre main. Seigneur. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se lèvent. Gardez vos mains de lever. Toutes ces mains qui sont levées devant toi. Saint-Esprit, je te prie maintenant de les sauver. Je te prie maintenant de les pardonner. Je te prie maintenant de les guérir, mon Dieu. Je te prie de leur faire du bien dans le nom merveilleux et tout-puissant de Jésus. que ta main se pose sur leur vie, sur leur corps, Seigneur, et qu'il y ait un changement ce soir dans leur vie au nom de Jésus. Fais-leur du bien, mon Dieu. Encourage-les par ta grâce et ton amour.
Nous espérons que vous avez été encouragés par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site églisecielouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nos différents